10h28, Audrey est encore dans ses suggestions de séries et de films sur Netflix. À chacun des invités qui se présentent en studio, elle propose un film.
Mais oui, mais je sais que ça va l'intéresser, c'était cœur.
Oui, hey, c'est moins 3 degrés sur Québec, donc ça se réchauffe tranquillement, mais sûrement, je vais juste faire un petit rafraîchissement. Oui, c'est ça. Toujours moins 3, plein soleil pour ce qui est d'aujourd'hui, avec quelques passages nuageux. On va se l'avouer, au-dessus de Québec, les nuages sont très rares.
C'est beau.
Ouais, des avions qui sont passés. Tu vois, je vois un petit contrail, une petite traînée de condensation. Mm-hmm. Fait que c'est relax.
C'est magnifique.
Quand t'es rendu à regarder traînée de condensation.
C'est que la vie va bien quand même.
C'est
hein?
Que tu cherches des nuages. Hey, Danny Morissette, notre ex de la Sûreté du Québec, est en studio. Je sais pas, Danny, si t'avais vu la nouvelle passante. On en a parlé un petit peu avec Audrey lorsqu'elle est arrivée à 10h. Avec nous autres. Les prisons du Québec sont en confinement aujourd'hui en raison du fait qu'il y a un agent correctionnel qui s'est fait agresser, s'est fait donner à peu près une quinzaine de coups de poinçon là, directement dans le corps, dont des coups à la tête, dans des conditions assez particulières à l'hôpital. Là, jusqu'à maintenant, on ne craint pas pour sa vie, mais les agents correctionnels sont juste écœurés de ne pas être capables d'être en sécurité pendant qu'ils font leur métier. C'est hallucinant. Tu as connu ce monde-là, toi, Danny?
Absolument. Puis c'est drôle que tu en parles parce qu'à matin, quand je me suis levé, j'ai pris ça aux nouvelles. Et puis nous autres, à la Sûreté, on travaille continuellement avec le service correctionnel, ou que ce soit le pénitencier de Donnacona ou encore le centre de détention de Québec. Je dis souvent à la blague, nous autres, on est chanceux dans la police parce que c'est les détenus, on les a maximum 24 heures.
Ouais.
Après ça, c'est le service correctionnel qui s'en occupe, mais eux autres les ont 24 heures par jour, 365 jours par année. Ils font un travail incroyable. C'est des partenaires à nous super importants. Moi, je suis avec eux autres, puis je m'avance pas trop en disant que toute la communauté policière sont avec eux aujourd'hui. Encore une fois, un autre détenu qui décide de s'en prendre au système de justice via un agent correctionnel qui, lui, ne faisait que son travail. Je crois que c'est arrivé à Sorel,
oui.
Dimanche. Et puis, nous, au crime majeur, on est responsable. Lorsque j'étais enquêteur au crime majeur, on était responsable, puis c'est encore ça aujourd'hui, de tout ce qui se passe à l'intérieur des murs, que ce soit au centre de détention de Québec ou à Donnacona. Et puis, des situations comme on vit actuellement, qu'on a vécu dimanche, c'est pas rare, là. C'est juste que celle-là est encore une fois de trop. Mais une fois par mois environ, des agressions armées au pic artisanal, les agents correctionnels pourraient le dire encore plus que nous, on est appelés à aller sur les lieux, une grosse équipe, et faire l'enquête. Donc, c'est très fréquent, beaucoup plus fréquent que le monde croit.
Ouais. T'as-tu l'impression que c'est de plus en plus violent à l'intérieur des murs? Tu sais, c'est une autre histoire, mais on en a parlé, toi et moi, Catherine, qui m'a écrit d'ailleurs dans les dernières semaines parce qu'elle avait entendu notre chronique et était très heureuse de t'entendre à la radio, qui s'est fait attaquer sur la 73. Donc, elle a procédé à une interception. Il y a un gars qui est sorti de sa voiture, il a pris une arme longue puis il a décidé de tirer dessus. Il a obtenu sa sentence dans les dernières semaines. Mm-hmm. Puis on parle de 15 ans de prison. Fait que, tu sais, pour 15 ans, le gars va être en taule, puis je trouve que c'est une bonne punition. Tu t'attaques à des gens, des forces de l'ordre. Ça prend quelqu'un qui décide, là, puis la force de l'ordre est là pour faire respecter la loi. Ben les sentences vont être plus sévères. Est-ce que ça pourrait être la même chose pour ce qui est des agents correctionnels? Je veux dire, tu t'attaques à des gens qui sont payés pour faire respecter la loi, que ce soit un juge, que ce soit un avocat, que ce soit un agent incarcéral ou encore un policier. Faut que les sentences soient durcies. Fait que ma première question, c'est, as-tu remarqué que c'est plus violent qu'avant? Puis ma deuxième, est-ce qu'on devrait durcir les sentences justement pour que vous autres, en tant qu'employés, vous reveniez à la maison le soir?
Oui, bien la première, effectivement, moi, là, c'est Danny qui parle, je trouve que c'est beaucoup plus violent qu'avant. Que ce soit pas juste à l'intérieur des murs, mais dans la société en général. Avant, là, quand on faisait de la police, je veux dire, le pire qui pouvait arriver, c'était de recevoir une taloche. Puis aujourd'hui, tous les bons criminels ont un couteau, soit un couteau sur eux, soit une arme à feu. Puis à l'intérieur, bien, avec les drones, etc., c'est pas rare, même que c'est très fréquent de voir que non seulement ils ont du cannabis, ils ont de la cocaïne, ils peuvent avoir des armes, ils ont des cellulaires également qui sont chippés par drone. Ça, c'est la nouveauté, si on veut, en matière de technique de crime organisé pour faire passer toutes sortes de trucs. Donc, pour répondre à la première question, je pense qu'il y a plus aucun respect, ou à tout le moins le respect a énormément diminué face à tout ce qui s'appelle système de justice, les acteurs à ce niveau-là. Au niveau des sentences, nous, lorsque j'étais coordonnateur au crime majeur, on avait ce qu'on appelle le plan de lutte à l'intimidation, le fameux pli judiciaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est qu'un intervenant, peu importe que ce soit un juge, un procureur, autant de la couronne que de la défense, parce qu'on va s'entendre, les procureurs de la défense aussi, des fois, ils ont des clients qui ne sont pas toujours évidents et qui ne sont pas satisfaits suite à une sentence, autant que ce soit les policiers. Nous, on déploie ce plan-là. Et ce plan-là, je vous le résume en deux mots, c'est tolérance zéro, en deux phrases, dans le fond, tolérance zéro et intervention immédiate. Donc, on n'attend pas une semaine ou deux. Regarde, on va arrêter l'individu, au pire, allez, on fera l'enquête après. Mais en partant, on met un plaster sur le bobo, puis on intervient rapidement. Et ça s'est transposé également suite à plusieurs formations qu'on a données aux juges, entre autres, au niveau de la justice, au système de justice. Et eux le savent. Donc, à partir du moment que tu t'attaques à une personne en situation d'autorité qui fait respecter la loi, comme les agents correctionnels, le juge se doit d'en tenir compte dans la sentence. Pour répondre à ta question.
Est-ce que, parce que, tu sais, vous autres, il y a la CNSST, là, vous payez de la CNSST, j'imagine, oui. À la Sûreté du Québec. C'est la même chose pour ce qui est des agents correctionnels. La CNSST doit se poser une couple de questions quand il arrive ce genre de danger-là, comme il est arrivé à l'intérieur des murs dans le secteur de Sorel, où l'agent correctionnel essaie juste de faire son métier, se ramasse avec 15 coups de poinçon dans le corps. Je veux dire, la CNSST doit enquêter à chaque fois. Puis les rapports de la CNESST, tu sais, ça doit aller à quelque part, ça. Il faut que ça se rende au gouvernement.
C'est sûr que comme lorsqu'on a une intervention, lorsqu'on a une enquête suite à un événement qui est survenu à l'intérieur des murs, nous, la Sûreté, on est indépendant de la CNESST.
C'est ça. Ça, c'est criminel.
Ça, c'est criminel. Donc, nous, on va faire l'aspect criminel. Par contre, la CNESST va communiquer avec nous et via la loi d'accès à l'information, va se procurer notre rapport. Et nous, quand on fait l'enquête, non seulement on rencontre les détenus, on va dire la vérité, là, les détenus, c'est rare. C'est très, très rare que ça parle. Et je ne connais pas le dossier de dimanche, mais je ne suis vraiment pas convaincu, puis je mettrais ma main au feu que même c'est-à-dire que le suspect et les autres qui étaient dans la wing, il n'y a pas personne qui a osé parler là-dedans. Je suis sûr, c'est la loi de l'omerta, la loi du silence, parce que ces gars-là... Sont là pendant X nombre de temps.
Ouais, tu veux protéger ta propre vie probablement à un certain niveau aussi, là.
Exact. Donc, on n'a aucune collaboration de leur part.
Quand vous faisiez des interrogatoires, comment ça se passe? Est-ce que les détenus sont toujours menottés ou parfois ils ont les mains libres puis ils sont libres s'ils veulent de vous sauter dessus?
Bien, c'est du cas par cas. Ouais. Habituellement, nous, on est... Quand on arrive, les enquêteurs, après, souvent les autres intervenants, c'est pas mal plus calme, là. Les détenus sont plus mollos. Donc, c'est rare qu'on va leur mettre les menottes. Peut-être qu'ils vont arriver parce qu'on a des salles d'interrogatoire à l'intérieur des murs qu'on peut utiliser. Les agents correctionnels vont nous les apporter. Ils vont nous demander à ce moment-là, est-ce que tu désires qu'ils soient menottés ou pas? Et tout dépendant... le pedigree du gars, de la façon qu'il se comporte et tout, je vous dirais que pour le bien de l'entrevue, de l'interrogatoire, normalement, on les menotte pas, à moins qu'ils soient vraiment encore en situation de crise. À ce moment-là, on les interroge même pas.
T'es-tu déjà fait attaquer?
Attaquer, je vous l'avais raconté un moment, je m'étais fait tirer dessus il y a plusieurs années. Oui. Mais attaquer, non, je peux pas dire attaquer, non.
Parce qu'on a toujours tendance à penser que les plus grands criminels vont être des opposants jusqu'à temps qu'ils soient à l'intérieur de la cellule. Mais ce que tu me dis, c'est que quand vous arrivez, quand les enquêteurs arrivent, les gars ou les filles, là, mais plus les gars, sont relativement calmes. Puis ils savent qu'ils peuvent se mettre encore plus dans le trouble s'ils sautent sur le gars.
Ben absolument. T'sais, surtout dans les prisons, 2 ans moins un jour, les gars, ils ont hâte de sortir. Mmh. C'est du provincial. Donc, ils ont beaucoup à perdre. Dans les pénitenciers, le gars, il est à prison à vie. Souvent, lui, tu sais, c'est un crime moindre inclus. Il n'en a rien à foutre. Il est là pour un meurtre. Mmh. Exemple. Donc, pour lui, une claque de plus à un agent correctionnel ou un policier, ça ne changera rien à sa situation.
Oui, puis la sentence qu'il va avoir, mettons, le 6 mois de prison qu'il va avoir, il va la purger à même la sentence qu'il a déjà.
Et voilà, c'est moindre inclus dans sa sentence à vie.
Bienvenue au Canada. Ça aussi, ça pourrait être quelque chose. Si tu t'attaques à un agent correctionnel, ben cette sentence-là va être à l'extérieur de la sentence que tu es en train de purger là. Donc, s'il te reste, je sais pas, moi, 6 mois de prison, puis tu pognes un autre 6 mois parce que tu t'es attaqué à un agent correctionnel, ben là, tu peux pas faire 6 mois. Faut que tu vas faire 6 mois plus 6 mois.
Exact. Mais ça devrait être ça.
Ça devrait être ça.
C'est un autre crime, là.
Comme aux États-Unis.
C'est aux... Ouais. Exact.
Mais...
Il y a bien des affaires au niveau judiciaire qu'on devrait prendre des États-Unis, à mon avis. Là.
Oui, d'où l'importance du travail des agents correctionnels, d'où le respect que moi je voue à ces gars-là, parce qu'eux autres se promènent avec des yeux dans le dos à cœur de journée, puis ils ne savent pas la journée, la minute, l'heure où ce qu'ils vont se faire attaquer. Puis il y a des criminels qui n'ont rien à perdre. Donc...
C'est vrai qu'il y a des agents correctionnels un peu corrompus? Tu sais, on voit souvent ça, on dirait, dans les films puis dans les séries.
C'est arrivé à Québec.
Ben, c'est arrivé à Québec avec la dame qui est tombée en amour, oui.
Avec un détenu.
Plusieurs années avec un détenu. Oui, il y en a, mais... Il
faisait l'amour à l'intérieur du centre correctionnel.
C'est complètement capoté.
Ouais. Mais il y en a aussi au niveau de la DPJ, il y en a aussi au niveau de la Sûreté du Québec, j'ai pas le choix de l'admettre, il y en a partout.
Des tarés, il y en a partout, là.
Mmh. Ah ouais,
il y en a partout. La police de Montréal avait eu des problèmes aussi avec des ripos dans les années 90, début 2000, même 80. Des policiers qui, en échangeant des montants d'argent avec le crime organisé, réussissaient à avoir des beaux condos en Floride ou des immeubles à condos en Floride.
C'est débile quand tu y penses. Je trouve que ça fait peur parce que nous autres, notre confiance est reposée sur les autorités, là.
Ben, tu sais, puis moi aussi, parce que j'ai deux cas, moi, qui me viennent en tête. On jase, là. Roberge, évidemment. Puis Davidson, c'est Benoît Roberge, je pense.
Benoît Roberge, oui.
C'est ça.
Pour les gens, peut-être juste remettre en contexte.
Ben, Benoît Roberge, lui, c'est un spécialiste au niveau du crime organisé qui travaillait pour le SPVM à Montréal et puis qui avait de nombreux contacts au niveau du monde interlope. Mais à un moment donné, bon, il s'est fait coincer sans rentrer dans les détails. Et il n'a comme pas eu le choix, parce que là, on craignait pour sa vie, de jouer des deux bords. Mm. Malheureusement, il a perdu son travail, il s'est ramassé en prison aussi. Puis il y avait un Davidson également à Laval, si je ne me trompe pas. Lui, il n'a pas supporté la pression et puis il s'est suicidé. C'est un peu le même type que Roberge. Il faudrait regarder, là. Je m'attends d'apporter.
Ian Davidson.
Ian Davidson. Bon, ma mémoire est encore pas pire.
Ouais, ça se passe quand même bien.
Mais c'est ça. Malheureusement, il y en a partout, puis dans tous les grades, dans tous les domaines aussi. Mm. Mais...
Tu sais, c'est facile pour nous autres de dire, exemple, « Ah, mais c'est policiers à Montréal, c'est des ripoux, mais...
Mm. »
Tu sais, si un membre influent de la mafia vient te montrer des photos de tes enfants...
Ah non, mais là, c'est sûr, tu sais, c'est... Hey, mon Dieu Seigneur!
C'est ça!
Mais non, mais je comprends.
Moi, je suis passionné des affaires policières, puis depuis que je suis jeune, puis à un moment donné, j'ai vu des émissions de télé. Je veux pas, on est éduqué par Hollywood, on regarde ça, puis on se dit, OK, attends un peu, là. Le gars, il voulait être policier pour courir après un méchant, puis à un moment donné, ben, il y a des gens qui arrivent dans sa vie, ils savent où il habite, ils savent où sa femme travaille, ils savent où ses enfants vont à l'école, à la garderie. Puis là, tout d'un coup, pouf, la petite photo. Voilà, ça, c'est ton petit Pierre, ça. Ton
mais c'est pas Pierre, quoi tu penses en partant. Moi, c'est toujours ce qui m'a fasciné avec le crime. T'es pas conscient qu'il n'y a pas juste toi impliqué?
Non, c'est sûr. Puis, tu sais, Yann, t'as raison. Moi, il y a eu des années aussi que je recevais. D'ailleurs, je les remercie à chaque Noël des lettres de la part du crime organisé. À l'effet qu'on me souhaitait une joyeuse année, un joyeux Noël, le Schtroumpf. Puis on a hâte de te voir en 2010, en 2011.
Ils t'envoyaient des cartes de Noël.
Absolument.
Ça, c'est le crime organisé.
Oh,
pour te dire, on sait où t'habites.
Oui, puis tu sais, il y avait un certain logo, je n'aimerais pas de crime organisé. Puis il y avait ma photo, il y avait la photo de ma conjointe de l'époque. Puis il y avait mon véhicule.
Et sa perlipopette de tabarnouche.
C'était vraiment des joyeuses fêtes.
Déménage en Floride.
C'est de la pression, là.
C'est de l'intimidation.
Ouais.
Mais c'est bien fait, par exemple. Je salue la façon de faire, c'est assez subtil pour...
Ben, on les louange pas, mais ils sont ingénieux. Moi, je connais quelqu'un, puis encore une fois, je suis très prudent parce que j'ai été chaudé un peu la semaine passée, donc je fais attention au niveau de mes collègues. Mais il est déjà arrivé un policier qui, lui, avait une maîtresse, et après un certain moment, je pense 3, 4, 5 mois, a réalisé que c'était une femme qui avait été envoyée par le crime organisé pour justement le piéger.
Prendre des petites photos.
Des vidéos en action et après ça, de dire, regarde, t'as plus le choix, mon homme, on a besoin de toi. Donne-nous de l'information au niveau du système, le Centre de renseignement policier du Québec, notre ordinateur. Sinon, ben ta femme va le savoir, ta vie est foutue.
Puis si tu penses, Audrey, que c'est juste pour les policiers, là...
Ah non, je t'annonce ça,
les politiciens, tu sais, je te parlerai pas d'une histoire que j'ai eu vent, là, mais je t'annonce que les politiciens, c'est ça aussi.
Ah non, mais je pense que même à moindre niveau, ça se fait partout, ce genre de chantage-là, mais... Je trouve ça. Je pense que c'est peut-être moi qui. En fait, je suis naïve à ce niveau-là, mais jamais, me semble, je me mettrais. Ou je suis peut-être trop méfiante, mais je ferais jamais quelque chose qui pourrait impliquer des proches ou qui me mettrait potentiellement dans merde. Non,
ils font ce qu'on appelle un contre-renseignement. C'est-à-dire que nous autres, on a un album, on les connaît, on sait où ils demeurent, on connaît l'heure de leur meeting, etc. Eux, en contrepartie, ben ils apprennent à nous connaître, ils apprennent à dealer avec nous autres, mais ils vont faire du contre-renseignement. Ils vont se renseigner, eux autres aussi, sur nous autres. Ça fait partie de la game.
Ah, puis ça, je trouve ça fascinant. Tu vois, c'est l'année passée, je suis allée faire un tour avec des amis à Sun Seychelles. En fait, c'est au début de l'été. Puis à un moment donné, on trouvait que près des toilettes, il y avait un énorme attroupement policier. Pour vrai, là, il devait être une vingtaine, trentaine. Là. Okay. On se demandait s'il n'y avait pas quelque chose qui se préparait. Je suis allée poser une question. Je comprenais pas ce qu'il faisait là en aussi grande masse. Puis le gars, le policier m'a dit, « Regarde derrière toi. » Pour remarquer que tu as une des tantes VIP, que c'était les Hells qui étaient là, c'était une gang. Fait qu'il dit, on est juste là pour prendre des images, regarder qui rentre dans la tente. Nous autres, on observe, on prend des informations. Pas là pour faire de la merde.
Les albums de famille.
Oui, mais c'est ça. Mais je trouvais ça complètement fascinant. Puis tu vois qu'ils se connaissent, là. Ça s'échange des petits mémos, puis des petits regards, puis c'est spécial, là.
Oui, bien, on fait des couvertures de tous les événements où ce qui se présente. Ouais. Et puis là, Saint-Ferdinand qui s'en vient au mois de février, où c'est que c'est un genre de compétition de moto sur glace. Ils sont toujours là, mais ça se fait quand même dans le respect. Puis ils connaissent notre travail. On met notre album à jour. Bon, OK, lui, c'est un striker. Ah, lui, on le connaît pas.
Il était là avec leur gros appareil photo. Pour vrai, quand t'es juste un simple festivalier, c'est impressionnant.
Ah non, puis il y a des affaires. Il y a des affaires weird. Là. Moi, je me souviens, dans les années 90, j'allais à une salle d'entraînement, puis je viens du centre-ville de Québec. Ouais. Fait que, bon, je connaissais les gens qui étaient des motards, entre guillemets. Je vais dans la salle d'entraînement, puis il y a un motard qui est là, puis il s'entraîne avec un policier de la ville de Québec, là.
Okay. Les deux s'entraînent. C'est spécial, ça!
Le policier, l'image que j'ai encore en tête, là, puis là, aujourd'hui, ce policier-là, il est rendu à la retraite, puis on n'a plus entendu parler. Mais les deux s'entraînent, puis le policier est en train de le spotter. Tu sais, c'est quoi, spotter?
Oui, absolument.
Fait que,
pas qu'il échappe sa barre sur sa tête.
Le Hells, il fait du bench press, là. Puis après ça, t'as le policier qui l'aide si jamais il échappe la barre. Bien, ça s'est su à la police de Québec. Puis le policier, les policiers de la ville de Québec n'avaient plus le droit de s'entraîner à ce gym-là qui était fréquenté par les Hells Angels. Là. Mm. Puis c'est arrivé, il y a de ça pas très longtemps aussi, dans le nord de Québec, là, sans trop identifier la place. Des policiers qui allaient s'entraîner là, puis il y avait des membres du crime organisé. Peux-tu dire que le chef n'était pas super heureux quand il a su ça? Fait qu'ils ont dit, ce gym-là, on l'oublie aussi.
Finto pepito.
Ben oui, exact.
Ben tu sais, on connaît nos leaders, puis à un moment donné, on est des êtres humains, fait que... tout en respectant la ligne, on marche beaucoup avec le respect, mais c'est certain que demain matin, fraterniser avec un motard, moi, je serais très, très mal vu de le faire. Et l'inverse est aussi vrai. Un motard qui fraternise avec une police, avoir une rencontre au sommet. Ouais, c'est ça.
Un rat.
Hey, wow.
Hey, on a le plaisir de passer l'émission avec Danny Morissette, qui est un ex à la Sûreté du Québec. On se raconte des histoires, puis après la pause, ben Dan va nous parler de ses trois histoires les plus marquantes de sa carrière. Restez là. D'ici là, vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. On revient. Marceau, le... 10h53, on a commencé l'émission en vous parlant... d'un lockdown des agents correctionnels qui ont dit « Ouais, ben jusqu'à midi, les gars, ils sortiront pas de leur cellule. » Puis
trouve généreux,
c'est
même.
C'est encore le cas. Puis je regardais dans le coin de Sorel-Tracy, les collègues de l'agent carcéral qui a été sévèrement attaqué. On dit battu, là, mais il a été poignardé à peu près une quinzaine de fois, dont des coups à la tête. Les collègues sortent en disant « Ma sécurité est à rabais. »
C'est débile, hein?
Oui, mais ces gens-là se sentent... Ils doivent faire ce job-là, mais ils se sentent en danger dans leur job. C'est pas, C'est pas super le fun. Puis j'ai bien hâte de voir ce que le gouvernement va faire. D'ailleurs, est-ce que le gouvernement va faire quelque chose?
C'est ça, j'allais te dire. J'espère pas trop, là.
Non, c'est ça. Hey, on est en compagnie de Danny Morissette, qui est un ex-enquêteur des crimes majeurs à la Sûreté du Québec. On se raconte des histoires avec Dan. Puis lui, t'as fait combien d'années dans la police, Dan?
J'ai fait 26 ans.
26 ans. Et tu nous as ramassé trois histoires qui ont marqué ta carrière. C'est-tu toutes des histoires vraies? Parce que tu m'as donné les titres de ces histoires-là, là. Puis là, je me dis, il va-tu nous niaiser? Je regarde la date. On est-tu le 1er avril? Non, on est le 3 décembre.
On devrait vraiment jouer à un moment donné à deux vérités, un mensonge avec toi. Tu nous racontes trois histoires, il faut voir laquelle tu bullshit.
Ouais. On commence avec une histoire de possession.
Oui, monsieur. Écoutez...
Possession, possession simple là, de cocaïne. Possession dans le
genre
sens
genre le démon,
de...
là.
Le démon.
Hey, moi, je suis énervé, là.
Écoute, premièrement... Si vous avez des proches, je ris parce que tu me fais rire, Yann. C'est l'histoire vraie à 100%, OK? Mais si vous avez des proches, de la famille, qui sont dans la police, puis qui vous comptent des histoires, dites-vous toujours une chose. Il y a 80% de faits dans cette histoire-là, puis il y a 20% de fantaisie. Okay. Oubliez jamais ça. On a tendance à grossir les histoires, à les mettre façon Hollywood... ou à s'approprier les histoires des autres.
Okay. C'est comme des histoires de pêche.
Comme les histoires de pêche.
Ou les histoires de chalet. Ce qui se passe au chalet reste au chalet.
Ouais,
là.
C'est ça.
Mais, pour la chronique d'aujourd'hui, ou à tout le moins un petit peu, je me suis dit, on parle tout le temps d'actualité, c'est tout le temps des sujets drabes, des enquêtes criminelles.
C'est plus lourd.
C'est lourd. J'ai dit, là, j'ai le goût de faire plaisir aux auditeurs, de me faire plaisir aussi, puis de démontrer un peu... que, écoute, oui, c'est sérieux, la police, mais j'ai quand même un petit côté d'autodérision où est-ce qu'on peut rire ensemble. Fait qu'on va y aller avec la première histoire, laquelle? L'exorcisme?
La possession.
Ouais, la possession, le voyons.
OK. Il n'y a pas de fantaisie dans cette histoire-là, c'est vrai.
Est-ce que tu étais patrouilleur ou enquêteur à l'époque?
Dans ce dossier-là, j'étais patrouilleur, j'avais 3 mois de police.
Hey! Oh boy! Jeune policier, début vingtaine.
Hey, ça te part une carrière, hein?
C'est un mardi soir, et puis je travaille avec un de mes collègues et aussi un ami avec qui on a fait Technique policière et Nicolette ensemble. Il y a 3 mois de plus de police que moi. Il y a 6 mois, j'ai 3 mois. Alors, c'est un mardi bien tranquille dans une ville quelconque, je ne veux pas la nommer. Et on reçoit un appel d'une dame qui est monoparentale, 35 ans. Elle a un enfant qui, on va dire, s'appelle Benoît. Qui a 7 ans, et puis là, elle ne sait plus quoi faire avec. Elle appelle la police, elle veut qu'on lui fasse peur. Ça arrive quand même régulièrement. Écoute, essayez de faire comprendre à mon fils que ça n'a pas de bon sens ce qu'il fait, parce qu'il a changé de comportement drastiquement. Il chamaille avec ses collègues. Audrey me regarde avec les deux yeux ronds.
Je suis absorbée. Non, mais je vais te couper 3 secondes parce que tu dis que ça arrive régulièrement. Est-ce que vous vous déplacez pour ces appels-là pour faire... peur aux enfants ou...
Non, sauf que là, c'était vraiment tranquille. On a dit, on va faire une bonne action. On va toujours bien aller voir ce qui se passe là. Parce que le jeune s'est mis à sacrer soudainement, il y a 7 ans là. Puis, il fait des choses que sa mère, elle comprend pas qu'il a jamais fait avant. Donc, on se présente sur les lieux. Et puis, on parle avec la madame. Et on dit, OK, il est où Benoît? Benoît est dans sa chambre. Je la raconte rapidement. On arrive en haut, et là, Benoît est assis sur son lit. Et puis, on commence à parler à Benoît, puis on commence à lui expliquer que c'est pas correct ce qu'il fait, puis qu'à un moment donné, s'il continue même, il va devenir un bandit, puis il va se ramasser en prison. Et là, tout à coup, la commode à côté de moi, le tiroir ouvre tout seul.
Arrête!
Je vous le jure. Je parle d'autodérision, là. Je pensais jamais raconter ça à la radio. Il y a peu de personnes qui le savent. Puis même moi, encore aujourd'hui, j'y crois pas. Mais le tiroir, d'un coup sec, là, il s'ouvre tout seul. Il n'y a pas de pente, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Et alors, je regarde mon collègue et je lui dis, « As-tu vu ça? » Et lui, il est blanc, il a peur. Il a vraiment peur et il est muet. Donc, je décide de prendre le lead. Je m'occupe de Benoît. Je demande à Benoît, « C'est-tu toi qui as fait ça? »
Ouais.
Et là, il se met à rire. Mais un rire...
machiavélique.
Comme on voit dans les films, pas un rire d'un enfant de 7 ans. Et là, j'ai froid, je deviens les poils des bras hérissés. Et là, je regarde mon collègue, il est plus là, il s'est poussé. Il m'a laissé tout seul avec Benoît.
C'est pas vrai.
Et là, moi, la première chose que je pense, c'est « Hey, faut pas que la porte de la chambre elle ferme, moi, être embarré tout seul avec. » On parle d'autodérision, je suis pas inclus.
7 ans.
Là. Et attendez, là, c'est pas fini. Là, j'oublie le dossier, on s'entend, je descends en bas, on va voir la madame. Et là, j'entends mon collègue dire à madame, puis en passant, je l'ai appelé mon collègue, puis il a dit, t'as le droit de la conter l'histoire, mais nomme-moi pas. Fait que, il dit à madame, il dit, pas de la police que vous avez besoin, c'est d'un prêtre. Puis on se pousse. Et là...
Dans quelle année, ça?
Dans les années 90.
Dans les années 90, j'aurais trop mois de police.
Pas par
regardez la première entrevue où je parle de ma carrière, vous allez savoir où c'est que ça se passe, pas bien loin de ça. Là, on fait deux, trois coins de rue, on s'arrête sur un coin, puis là, on se regarde, puis la première question qu'on pose, c'est qui va écrire le rapport?
Parce que t'as pas le choix.
Ben non, on a intervenu sur un appel qui est listé tout. Donc, mon collègue, il dit, ben excuse, mais c'est moi le plus vieux, fait que c'est toi qui vas l'écrire. OK. Donc, moi, j'écris quatre lignes. Bon, intervenu, sensibilisation auprès de la mère, du jeune. Tout s'est très bien terminé. Tu sais, un rapport très simple, très concis.
Sans trop de détails.
Le lendemain, je rentre au travail et mon capitaine, j'ai failli dire le service de police en question, me fait venir dans son bureau. Il me dit comment ça s'est passé hier? Bon, soirée tranquille, pas eu ben d'appel, tout ça. Il dit ah ouais. Il dit comment t'expliques ça? Et là, il me montre le front page journal de X. Et c'est écrit dans la page couverture, la police n'y peut rien, elle demande un exorcisme.
Impossible.
Écoute, si Christian Page entend ce que je viens de dire, je suis convaincu qu'il est déjà en train de pitonner dans ses archives pour essayer de trouver le dossier. Là.
Puis toi, c'est ton collègue qui a dit de coller un prêtre, là?
Ouais. Puis moi, je me fais quasiment accuser d'avoir rédigé un faux rapport. Mais c'est pas rédigé un faux rapport, c'est juste que j'ai oublié certains petits détails plus ou moins pertinents.
Un tiroir puis un enfant qui rit de façon machiavélique.
Dont l'abandon de ton collègue.
Hey!
Dont toi qui se dis, attends un peu, si la porte elle se ferme, moi être pogné de ça avec un enfant de 7 ans, diabolique. Wow!
Puis, j'aime pas ça, ces affaires-là, sincèrement, nous autres. Là,
ouais.
Puis je l'ai jamais compris, cela. Moi, je crois à une explication logique dans tout. Mais celle-là, regarde, il va falloir qu'on me l'explique.
Tu te poses encore des questions.
Puis, tu sais, il y a plein d'histoires, là. Tu sais, moi, Christian Page, c'est un gars en qui j'ai énormément confiance. Il m'a jamais menti. J'ai jamais. Tu sais, il m'a conté plusieurs fois les mêmes histoires. Il se trompe jamais dans ses témoignages.
Non, on veut
et tout
comme
ça.
Pas y croire.
Puis, tu sais, à un moment donné, quand il était jeune, il est arrivé quelque chose. Puis, c'est pour ça qu'il est devenu l'enquêteur du paranormal. Puis, il a commencé à travailler dans ce merveilleux monde-là. Puis, à s'intéresser à ce monde-là. Tu sais, les affaires qui sont difficilement expliquées. Gab et tout ça. Puis plus tard, il est revenu un peu sur ce qui s'était passé quand il était jeune, tu sais, puis il avait eu cette expérience-là, parce qu'avec de l'expérience, t'es capable un peu de t'expliquer « OK, ben j'étais dans telle position, il y avait du vent, c'est arrivé là, j'avais fait telle affaire. » Mais il y a une affaire qui est jamais revenue, par exemple, c'est celle-là. Il y a une maison qui est dite « hantée », OK? C'est une maison qui fait la promotion comme quoi c'est une maison qui est hantée, puis il se passe des phénomènes paranormaux là-dedans. Fait que Christian, il s'en va là avec son caméraman, il voulait faire une belle émission, un bel épisode avec cette maison-là hantée. Il jase un peu avec la famille, puis là, bon, c'est quoi, qu'est-ce qui vous dit que cette maison-là est hantée? Ben à telle place, des fois, il y a comme des petits frissons qui passent, il y a des courants d'air... Puis, tu sais, nous, on est habitué maintenant à vivre avec ce petit être-là qu'on ne connaît pas. On pense que c'est une petite fille, mais on ne sait pas si c'est une petite fille ou pas. Et Christian monte au deuxième étage, tu commences à faire des affaires. Puis là, il niaise avec son caméraman. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend? Y a-t-il une petite fille qui m'entend? Touche ma main, fais ci, fais ça. Commence à rigoler. Puis là, son caméraman dit encore une autre affaire où, tu sais, on ne réussira pas à faire d'épisode. C'est de la grosse marde. Et tout d'un coup, Christian, il s'est fait prendre par la main. Puis là, il s'en revient, son caméraman est à genre 2 mètres de lui. Puis il est prêt à jurer sur la Bible ou sur tout ce que tu veux qu'il s'est vraiment fait prendre par la main. Il a regardé son caméraman, il dit « T'as-tu ressenti ce que je viens de ressentir? » Son caméraman a dit « Il y a quelqu'un qui vient de me prendre par la main. » Puis il a regardé son caméraman puis il dit « On décalisse. »
C'est clair. Je serais parti avant
yo,
ça.
Yeah.
Ouais. Hey. Puis ça, il l'a raconté souvent, cette histoire-là, mais tu sais, Christian, c'était une des premières fois de sa vie où réellement il se passait quelque chose. Comment tu t'expliques ça? L'es-tu imaginé, puis là, tu as eu l'impression que quelqu'un t'a touché, mais l'autre, qui est le caméraman, c'était à peu près la même affaire aussi.
Non, c'est ça. C'est
il se sentait touché aussi sur la main.
C'est weird.
Fait que les gars, ils ont pris leur courage à deux mains, puis ils ont juste sacré le camp.
Oui, puis ce qui est bon avec Christian Page, moi, je l'adore, je l'admire, c'est que lui, il se base sur les faits, puis il fait vraiment des enquêtes du paranormal.
Ben oui.
Il est pas hurluberlu. Puis il démystifie un paquet de dossiers et de films aussi qu'on écoute.
Puis quand il y a rien, il y a rien. Il s'organise pas pour essayer de trouver quelque chose.
Il va te faire craindre quelque chose. Pis...
Mais cette histoire-là, moi, c'est une histoire qui m'a marqué. Moi, il ne m'est jamais rien arrivé de paranormal, tu sais. À Québec, sur la rue Monseigneur Gautier, peut-être que tu serais capable de le retrouver, Audrey. Il y a eu des manifestations fin 80 ou début 90. C'est sur la rue Monseigneur Gautier. Il y avait une maison à logement, en fait. Là. Il y avait 4 logements dans cette maison-là. Puis on disait que c'était une maison hantée. TQS s'était déplacé dans le temps. Robert Plouffe, je travaillais à TQS. Tu l'as-tu, Audrey?
Oui, bien, c'était à Beauport, ça.
À Beauport,
les espions de frappeurs d'un mur.
Puis en 2016, on en parle encore, là.
Oui, et là, tu as Robert Plouffe qui arrive avec son caméraman. Puis là, ben, il prend le témoignage de la dame qui dit que l'immeuble est hanté. Puis pendant que la dame est en train de parler... T'as le mur qui fait un genre de... Écoute, il bouge d'un demi-pied. Elle dit, voyez-vous? Puis t'entends un gros bang! Fait que, voyez-vous, c'est ça qui se passe. Puis les enquêteurs se sont déplacés. La police dit, nous autres, on peut rien faire. Christian Page s'est déplacé. Il a rien vu d'anormal, si ce n'est que les coups qui se donnaient. Après ça, on a pensé que c'était des conduites de gaz ou quelque chose du genre. Puis finalement, l'épisode que je te parle termine par les manifestations se faisaient juste quand il y avait une jeune fille qui était à l'intérieur de sa maison, qui était en visite chez sa grand-mère, exemple. Puis il y avait des manifestations à ce moment-là.
Oui, puis il y a le reportage, je pense, qui est encore sur YouTube.
Oui, il est encore disponible sur YouTube.
Oui, mais tu as tout ça là, le phénomène inexpliqué à Beauport en 1989. Tout ça est disponible, c'est assez particulier. Là.
L'immeuble existe encore, Audrey.
Ah oui, mais je viens de voir des images. C'est pas super beau, là. Il est là. Je voudrais pas être voisin, mettons. Là.
Ouais, il a été revampé depuis, là. Mais cette jeune fille-là existe encore, là. Elle est toujours en vie, là.
Ah, c'est complètement capoté.
Ouais.
Tabarnouche. OK, histoire numéro 2.
Ensuite, Audrey a trippé à la mission.
Hey, moi, ces affaires-là, là, puis on dirait que je viens vraiment attentive. J'écoute plus que je parle, mais ça me...
Une bébite qui t'a attaqué, Danny.
Hey, une bébite, tu dis? Je suis allé belle sur Quévillon. On y allait rapidement et puis...
Là, t'es en patrouille.
Je suis en patrouille encore, oui. Okay. Ceux qui connaissent un peu le Belle-sur-Quévillon, il y a une route, la route 113. C'est une route où il ne se passe absolument rien. Il y a un véhicule à l'heure, puis c'est un camion lourd. C'est la route, entre autres, je pense, qui fait la liaison entre le parc de Chibougamau et l'Abitibi. Donc, un soir, vers 8-9 heures, on reçoit un appel. Il y a environ 20 véhicules immobilisés. Et on ne sait pas trop pourquoi. Donc, on est surpris. 20 véhicules à le Belle-sur-Quévillon à cette heure-là. C'est pas normal. Donc, on n'est pas loin. On se présente, mon collègue et moi, sur les lieux. Et là, on réalise que les gens sont immobilisés parce qu'il y a deux grosses bêtes sur la voie publique. Donc, jeune policier fringant de 26 ans, je me dis, bah, c'est pas vrai que deux bêtes vont empêcher la circulation. Donc, je me présente et ces bêtes-là, je ne sais pas quel genre de bête que c'est. Quand même, j'essaierai de les décrire. Si jamais il y a du monde qui vient de l'Abitibi ou qui ont travaillé dans ce coin-là, peuvent me le dire, ça serait super apprécié. Ça ressemble à des castors, mais c'est un peu plus gros. Puis je vous confirme que ça a des méchantes dents puis des griffes. Donc, les deux sont là et moi, je me dis, bon, OK, on va régler le problème. Je donne, entre parenthèses, un petit coup de pied sur la première bête qui roule et qui se ramasse sur le côté du chemin. Donc, le dossier est réglé. Je me revire de bord pour m'occuper du deuxième bestiole, mais elle a vu ce que j'avais fait à son chum, fait qu'elle est prête. Puis là, elle me regarde. On se dévisage du regard un bon 30 secondes tous les deux, et là, je viens pour faire la même chose, donner un coup. Mais cette bête-là, elle donne 3 coups de queue sur le sol, bang, bang, bang. Et elle décide de me sauter à la gorge.
Okay. Est-ce que ce serait ça? Ce serait-tu un carcajou? Parce que ça, c'est l'animal le plus dangereux de la forêt. Là. Ça s'attaque aux ours. Là.
Écoute, je pense que oui.
T'étais chanceux de t'en sortir. Parce que normalement, si tu y piles dessus, d'après moi, si tu ne donnes pas ta botte, à part avec ta jambe.
Hey, mais ça ressemble pas mal à la description que tu as donnée.
Ça saute-tu sur un carcajou?
C'est une bonne question, j'en connais pas personnellement.
Carcajou qui saute, tiens, je
trouve. Parce que la bête en question, là, tu sais, je suis pas grand, je fais 5 et 10, mais elle m'a sauté à la gorge.
Ouais.
Et là, imaginez le scénario, là, je me bats avec une bête, je la tiens par les hanches, Et là, j'ai 20 véhicules qui diminuent les hautes, les basses, qui sont morts de rire. Il n'y a pas un chat qui m'aide là-dedans. Mon partner, il est plié de rire. Et là, moi, je saigne. Je saigne parce qu'elle m'a accroché la veine jugulaire.
Ah!
Puis là, elle ne me lâche pas. Elle me lâche pas, puis elle continue à me déchirer de partout. J'ai les bras déchirés.
C'est sûr, c'est pas un lynx, là.
Non.
Ça, c'est un gros chat, là.
Oh, non, c'est pas un lynx. Ça ressemble à un carcajou.
Un carcajou.
Mais okay. Carcajou, ça a vraiment des grands griffes, des grandes dents. C'est... Ah oh, ouais, ça s'agrippe, ben, là. C'est...
En tout cas, ça veut pas jouer, là.
Là, il y en a pas un. Toi, t'es avec ton habit de policier, t'es à terre, tu tiens la bête par les hanches. Il n'y a pas personne qui vient t'aider.
Ah non, le monde, ils sont tordus de rire parce qu'imaginez l'image. J'ai une bébite dans les mains qui me pogne à la gorge, puis moi, je suis là, puis je fais des 360, puis j'essaie de la tirer à gauche, à droite, mais elle me lâche pas. Mais à un moment donné, elle finit par me lâcher, et là, évidemment, je rembarque dans le véhicule, la circulation reprend son cours. Mon chum, il me regarde, il dit, ça va pas bien. Mais ma chemise beige, j'étais à la Sûreté du Québec, ouais. Elle est remplie de sang. Une veine jugulaire, ça saigne.
Ça saigne en tabarnouche.
Et je suis blessé de partout. Et je m'en vais à l'hôpital et le docteur me dit « T'as passé à peu près un centimètre de mourir. On va te faire passer des tests contre toutes les maladies possibles. » Ouais. J'ai passé une semaine à subir des tests. J'ai eu des points sutures.
Voyons donc!
Ouais.
Moi, je te pose une question comme ça. C'est peut-être un peu banal de te poser la question 20 ans plus tard, là, mais t'as jamais pensé à te servir de ton gun?
Sur le coup, là, honnêtement...
Mais il y a une d'en face.
Elle était après mon coup. J'avais peur de tirer puis d'atteindre quelqu'un qui était dans son véhicule.
OK, mais quand elle était à terre, elle te menaçait, là?
Ah, non, la seule idée qui m'est passée par la tête à ce moment-là, c'était d'embarquer dans le véhicule puis m'en aller, là. Sincèrement, j'ai dit, il faut que j'aille à l'hôpital, ça va ben vraiment oui, pas bien, puis je me sentais faible, très,
tu l'échappais belle?
Hey, c'est complètement débile, cette histoire-là.
Mais le carcajou, Audrey, je répète, là, les ours ne touchent pas au carcajou, ils ont peur.
Ah non, mais tu googlez carcajou, moi, vous dire sur Google, là, c'est pas juste cute, là. T'as des photos. Quand ça a la gueule ouverte, là, les dents sont assez prononcées, là.
OK, t'étais chanceux de t'en sortir?
Ben, c'est la fois, dans ma vie, où c'est que j'ai passé le plus proche de mourir.
Quelqu'un qui dit un vison.
Je sais pas, hein?
C'est trop petit, un vison, puis t'aurais été capable, tu nous l'aurais décrit autrement, là.
Ben, y a beaucoup de gens qui disent que le carcajou, ça ferait bien du sens en Abitibi, là. T'sais, si on se projette où t'étais, là. Carcajou, autrement appelé un glouton, là, de ce que je comprends, là, parce qu'il y a des gens qui nous parlent des deux, là. On nous parle sinon des fameuses loutres.
Non,
mais
non,
ça m'épaterait aussi, on sait c'est quoi une loutre.
Ça aurait du sens, carcajou, avec ce que vous me dites. Si ça
a
mais
on a complété
la
l'enquête, je suis bien contente.
Moi, j'ai déjà dit, il est chanceux de s'en être sorti. Le carcajou, c'est, c'est vraiment, vraiment méchant. OK, puis la dernière histoire de notre enquêteur. Écoute, je pensais pas qu'un jour un enquêteur allait l'avouer, mais tu t'as mentionné ça, qu'il y a peut-être un médium ou une médium qui t'a aidé dans une de tes enquêtes.
L'avouer, c'est un gros mot. Mais c'est quand même spécial. Je suis aux enquêtes à Baie-Comeau et puis on a une dame très connue du milieu. Je vais la respecter. Elle a un gros commerce et puis elle est très impliquée dans la société. Et malheureusement, cette dame-là vit une séparation, décide de mettre fin à ses jours, décide d'aller au Parc des Pionniers, pour ceux qui connaissent Baie-Comeau, là, un beau grand parc. Et puis, elle laisse une lettre de suicide expliquant comment qu'elle va mettre fin à ses jours. Donc, on se présente sur les lieux, et puis c'est un peu Hansel et Gretel. On trouve une paire de bas, on trouve à un moment donné un chapeau, on trouve du linge, et finalement, ça arrête au niveau d'une falaise, une très haute falaise, où il y a une rivière un peu plus bas. Donc, on en vient à la conclusion qu'elle a sauté en bas, puis la rivière, elle amène vers le fleuve Saint-Laurent. Donc, grosse démarche d'enquête, l'hélicoptère est là, recherche et sauvetage, les équipes de bénévoles. Vous avez les plongeurs également qui sont appelés là-dessus. Pas moyen de retrouver cette dame-là, malgré tous les efforts. Et à cette époque-là, on parle des années 2003-2004 de mémoire, c'est ultra médiatisé. Et c'est arrivé à l'automne. Donc, l'hiver arrive, les recherches se terminent, toujours pas retrouvé la dame. Et finalement, au printemps, à un moment donné, il est 4h30, je quitte mon travail, et là, il y a une caravane avec toutes sortes d'écritures et de symboles qui est là dans le stationnement du poste de police.
OK.
moi, curieux comme je suis, je vais voir la personne. Et c'est une dame, très gentille dame. Elle me dit, je viens concernant cette dame-là. Fait que, vous savez, les médiums, je l'avais parlé lors d'une chronique antérieure, on ne fait pas affaire avec eux. Du tout, sauf qu'on va les écouter quand même. Mais on va valider ce qu'ils disent, mais de là à amener un médium à la cour ou de là à servir d'un médium comme technique d'enquête, écoute, 99,9%, c'est pas admissible en preuve non plus. Donc, on n'amène pas ça. On n'amène pas ces personnes-là avec nous. Alors, moi, curieux, je regarde autour de moi si mes collègues me voient et je disais, madame, je vais vous montrer où est-ce qu'on a fait nos recherches. Je l'amène avec elle au parc des Pionniers, qui est à peu près à 1 km de chez nous.
Ouais.
Et à ce moment-là, elle sort de la vanne avec un genre de cône orange, mais gigantesque, qu'elle met au-dessus de sa tête avec une genre d'étoile ou de quoi de brillant sur le dessus. Et elle part et elle suit la direction que je lui montre. Et on arrive au niveau de la falaise. Et là, à ce moment-là, elle me regarde et elle me dit « Je sens sa présence ». J'ai dit, écoutez, madame, j'ai dit, on a vraiment épluché ce quartier-là au complet, ce territoire-là. On n'a jamais été en mesure de la retrouver. Merci beaucoup. J'étais curieux, puis elle était très contente d'avoir été. Mais elle a dit, non, elle est ici. Eh bien, croyez-moi pas, même pas une semaine après, on a un citoyen en VTT qui nous appelle, qui dit, écoute, c'est pas clair, mais j'ai l'impression de voir une main sur un arbre au travers d'une falaise, comme en perpendiculaire, là, je ne sais pas si vous me suivez. Des fois, il y a des branches d'arbres qui poussent au travers des falaises.
Ouais.
Et là, je me dis, oh mon Dieu, OK. On se présente sur les lieux. Effectivement, ce qui s'était passé, c'est que la dame avait chuté en bas de la falaise et malheureusement, elle est tombée sur une branche et comme elle avait frappé plusieurs autres branches auparavant, les feuilles l'avaient enrobée au complet à un point tel qu'on ne la voyait pas. Donc, avec le printemps qui est arrivé, le changement de température et tout, là, on voyait une main. On est en mesure de la sortir de là. Et effectivement, cette médium-là avait raison
de sentir bien sa présence.
Ouais.
Fait que c'est soit que c'est un hasard ou soit vraiment qu'elle a senti une présence.
Là, tout est trop scientifique. Là. Ouais, moi, je suis pas notre party,
un peu
là.
Trop factuel.
Ben, moi, je pense que c'est un hasard aussi. Là, t'sais. Puis honnêtement, encore aujourd'hui, mes collègues ne savent pas que j'ai parlé avec une médium et que je suis allé sur les lieux. Mais là, je peux en parler. C'est prescrit. Ben, ça fait tellement longtemps.
Dan, je te pose la question. C'est, tu sais, ton premier cadavre, là, c'est la première fois que tu vois quelqu'un de mort. Là.
Oui.
Ça doit être raide, là.
Ben, l'être humain, c'est
pour tous les policiers, puis les ambulanciers, puis même les pompiers, là, vous avez à tomber régulièrement sur des cadavres. J'imagine que ça fait mal à chaque fois. Là.
Moi, je me suis jamais habitué. Là, je vais parler pour moi. Puis je pense que l'être humain n'est pas fait pour voir des morts. Puis c'est jamais joli, nous, quand on voit des morts, que ce soit d'un accident routier, que ce soit d'un suicide. Puis c'est pas quelque chose que j'aime.
C'est vrai que tu le sens? T'sais, des fois, j'ai déjà parlé avec des policiers qui disaient non, on le sent et on le sait quand il y a un décès. On n'a même pas besoin de voir.
L'odeur.
Oui, que c'est pas comparable à absolument rien d'autre. Quand on dit ça sent la mort, c'est très, très précis.
De putréfraction.
Oui,
puis quand l'individu en question vient de décéder, je vais même aller plus loin, des fois, on sent sa présence. On sent qu'il n'a pas encore quitté, qu'il nous observe.
On vous donne-tu des cours, justement, pour vos émotions par rapport à ce type de situation-là? Moi, je pense à un dossier qui a fait beaucoup jaser, Guy Turcotte, quand il a tué ses deux enfants. Les policiers qui sont arrivés sur le call, il y en a plusieurs qui n'ont pas retrouvé leur emploi. Là. Ouais, ils voudront plus jamais faire ça de leur vie. Ils vous donnent-tu des formations? Y a-tu de l'aide, d'accompagnement pour vous autres?
Beaucoup plus maintenant. Ouais. Avant, là, quand on a commencé, on avait le service d'aide au personnel policier.
Ouais.
C'était 8 consultations par année payées par l'organisation. Là, je parle pour la Sûreté du Québec, les sûretés municipales, je suis moins au courant. Et le restant, ben, c'était nous autres qui le payaient. Aujourd'hui, on a la vigile, on a d'autres services.
C'est mieux encadré.
C'est beaucoup mieux encadré. La santé mentale chez les intervenants, chez les policiers, est beaucoup mieux encadré. Et c'est beaucoup moins tabou aussi, je vous dirais. Moi, j'ai gardé des choses à l'intérieur de moi pendant de nombreuses années. Et puis, aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup moins de restrictions. Je me sens plus ouvert. Pourquoi? Mais les nouvelles générations sont de même. Ouais. C'est correct.
En jasez-vous dans le char, des fois, pour décompenser?
Oui. Entre nous autres, là, on se dit tout. Mais où est-ce qu'on peut-être on faillit un peu, c'est envers de notre famille. Souvent, en tout cas, surtout les jeunes de mon âge, on garde ça plus pour nous. On ne veut pas embêter les.
Mais c'est parce que tu étais à la maison. Tu étais à la maison, mais tu étais un peu prisonnier de ta tête, là.
Absolument. Puis tu viens de voir. J'ai plein d'images en tête, là, mais un suicide par arme à feu avec un 12, là, c'est pas joli, là, c'est pas beau, là, c'est des morceaux. Je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est sûr que cette image-là, tu l'as dans ta tête le restant de tes jours. Puis les policiers qui voient le plus de cadavres, de décès, c'est vraiment les techniciens en identité judiciaire. Ils sont appelés sur toutes les morts, que ce soit mort naturelle, mort accidentelle. Mort criminelle.
Mais j'imagine que ça te prend un certain type de personnalité à quelque part. Tu sais, j'ai une amie, moi, qui a fait sa technique ambulancière, puis pendant son stage, un des premiers cas sur lequel elle est tombée, c'était un suicide par pendaison. Ouais. Ça faisait quelques jours là, que cette personne-là était là, malheureusement. Là. Puis, tu sais, bon, elle, par chance, dans son cas, est capable de mettre vraiment une séparation de ce... Je sais pas... Puis là, écoute, c'est vraiment une théorie à deux scènes. Je sais pas si, par les films, les séries, on est tellement exposé des fois à des affaires un peu lugubres que ça aide, mais pour elle, c'est comme si c'était pas vrai. Il y a vraiment une séparation, une protection mentale qui fait que cette image-là, c'est pas un être humain. Comprends-tu ce que je veux dire? Comme s'il y avait
un mécanisme de défense.
Un mécanisme. Fait que pour elle, ça a zéro été un enjeu, mais elle me racontait qu'il y a des gens avec qui elle a fait les études, qu'eux autres, ils ont pas terminé leur stage, puis c'est plus ça, finalement, leur job. Là. Ils ont changé complètement de track. Fait que j'imagine que tu dois avoir un... Tu dois être faite d'une certaine façon pour être capable aussi d'être à l'identité judiciaire.
Oui, oui, absolument. Ces personnes-là, ils en voient tous les jours. Mais tu parles avec eux. J'ai un de mes collègues, Marco Cloutier, qui doit avoir fait 46 ans de police. Cet gars-là, il en a vu, là. Puis aujourd'hui, il enseigne. Puis
ouais. Mais tu sais, n'en demande pas moins que ça doit être. Ça doit, tu sais, rendu à la maison, là, tu passes pratiquement pour un insensé. Parce que tu as vu des atrocités. Puis là, ton conjoint, ta conjointe te parle des choses qui sont très banales de la vie. Puis là, toi, tu dois avoir de la misère à switcher, là, t'as peu, là. Je suis rendu dans ma vie au quotidien, puis ma blonde est pas de bonne humeur parce qu'il y a une de ses collègues qui a pas parlé aujourd'hui.
Oui.
Là, faut que tu sois empathique envers elle.
Alors c'est un enjeu dans ton
alors que tu viens de voir des atrocités.
Ben moi, ma blonde, elle vend des jouets. Fait qu'on s'entend qu'on est à l'opposé, les deux, là.
Ouais.
Donc, c'est sûr qu'elle, quand elle me parle de...
Elle est dans le bonheur, elle, là.
Oui, elle, quand elle me parle de la nouveauté des jouets pour Noël 2024, puis que moi, j'en parle pas, mais je dis, bah, ben aujourd'hui, on a détaché un pendu. Non, on essaie de garder ça pour nous autres, parce que c'est vraiment deux extrêmes. Mais j'en ai besoin d'elle, tu sais, Jenny, je l'adore. Puis si je l'avais pas pour me rééquilibrer, ben,
parce que pour ceux...
C'est beau à entendre.
Hey, pour ceux qui ne savent pas pantoute, tu parles de Ginny, puis maintenant que tu l'as nommé, les chroniques qu'on fait avec Club Jouet, ben c'est Ginny qui est pour Club Jouet. Fait que le lien de la collaboration
ceci
est là.
Ceci explique cela. Danny Morissette, ex à la Sûreté du Québec au crime majeur, merci beaucoup de venir à chaque deux semaines à peu près pour faire tes petites chroniques. C'est bien, bien, bien apprécié. On apprend plein de choses, puis t'es très divertissant.
Gratte d'autres histoires, là. Moi j'en veux d'autres. Là.
Ben moi, c'est le mot de la fin, si vous pouvez me permettre... Je tiens à vous remercier aussi, tous les deux, pour votre confiance. Puis de me réinviter, c'est bon signe. Puis surtout, je tiens à remercier les auditeurs pour les beaux messages qu'ils m'envoient. Je les lis tous. Et puis sincèrement, ça fait chaud au cœur. Je ne suis pas habitué à ça du tout. Je n'ai pas suivi de cours de communication. Je n'ai pas suivi de cours de CRTC. Donc, quand je vois des beaux commentaires de même, ça m'oblige à performer encore plus puis à vous donner le meilleur de moi-même. Donc, merci beaucoup. Merci,
Dan. C'est bien beau, tout ça. Hey,
nous autres, avant de se quitter, Audrey, juste parler du concours Sobab jusqu'au 24 décembre. On vous invite à surveiller nos réseaux, car on va avoir un calendrier de l'Avent pour vous et des cartes cadeaux Sobab de 100 $ à faire tirer. Donc, chaque fois que vous allez voir un reel sur Instagram de Boulevard, il y aura toujours une tasse de café de caché dans le montage. Puis la gang de Gravel voudra savoir si vous l'avez trouvé. Donc, écoutez Gravel dans le retour cet après-midi pour participer et courir la chance de gagner votre carte cadeau Sobab de 100 $. Abonnez-vous à nos comptes Instagram et Facebook, si ce n'est pas déjà fait. Et rendez-vous chez Sobab, si ce n'est pas déjà fait. Le meilleur café des conseils personnalisés, des machines spécialisées chez Sobab. Vous faites un déplacement payant. Merci beaucoup, Audrey.
Salut!
Bye-bye. 10h23, Pascal CV s'en vient.